Ok, bonjour à tous. Alors, désolée pour le petit décalage, mais comme d'habitude, l'écran ne fonctionnait pas. On a donc terminé la semaine dernière une première partie sur la question du droit objectif. S'il vous plaît. Et encore une fois, le propos, c'était d'envisager finalement la règle de droit en envisageant le système juridique dans sa globalité. Ce qu'on y a étudié surtout, c'est le fonctionnement de la règle de droit, les caractéristiques, les divisions, les sources et la question de l'application, notamment la question de l'application de la loi dans le temps. En réalité, cette règle de droit qu'on a vue pendant toute la première partie, elle a vocation à régir la vie des individus, donc elle a pour destinataire... Elle s'adresse aux individus. Elle n'existe pas pour elle-même, en fait. Sa fonction, c'est d'organiser la vie des individus. Plus exactement, quand je dis des individus, en réalité, encore une fois, le terme n'est pas approprié. On va le voir dans quelques instants. Elle a vocation à encadrer la vie des personnes, ce qui n'est pas un synonyme exact des individus en droit. On en reparle dans 5 minutes. Donc, ce qui va nous intéresser dans la deuxième partie, c'est la réception du droit objectif par la personne. C'est-à-dire comment est reçu, comment s'organise le droit objectif, la règle de droit, l'ensemble des règles de droit, hein, évidemment, autour de la personne. Pour résumer la distinction entre le droit objectif et le droit subjectif, j'ai repris la formule de Carbonnier, vous l'avez au tableau, hein, c'est pas la peine de la noter. Si le droit objectif nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit subjectif de le faire. Donc on reprend ce qu'on disait dans l'introduction générale du cours, à savoir que le droit objectif, c'est le système juridique. C'est l'ensemble des règles de droit applicables dans une société donnée. Donc pour nous, évidemment, en droit français, puisqu'on a raisonné par le prisme du droit français. Encore une fois, quand je dis droit français, là, c'est au sens large, au sens des règles applicables en France, dont on a bien vu quand on a étudié les sources que droit applicable en France, c'est très loin de se limiter au droit adopté en France, et qu'on a d'autres types de sources qui sont des sources supranationales. Donc ça, c'est le droit objectif, le système juridique. Le droit subjectif, qu'on va voir à partir de maintenant dans la deuxième partie du cours, c'est le moyen pour la personne de mettre en œuvre ce système juridique. Encore une fois, s'il existe par lui-même, pour lui-même, sans finalité, ce système juridique, il n'a aucun intérêt. Il est finalisé, le système juridique, il a une fonction particulière. Cette fonction, c'est d'organiser la vie des personnes. Il y a une définition du droit subjectif qui a été proposée par les professeurs Aubert et Savo. Alors Aubert, on en a déjà parlé, hein, des professeurs Aubert et Savo. Aubert, ça s'écrit A-U-B-E-R-T. A-U-B-E-R-T et Savo, ça s'écrit S-A-V-A-U-X. S-A-V-A-U-X, donc les professeurs Aubert et Savo, selon leur définition, c'est dans le manuel, hein, le droit subjectif, c'est, et je cite, l'attribution par la règle de droit d'un pouvoir d'imposer, d'exiger ou d'interdire, l'attribution par la règle de droit d'un pouvoir d'imposer, d'exiger ou d'interdire, l'attribution par la règle de droit d'un pouvoir d'imposer, d'exiger ou d'interdire, considéré comme utile à la personne, considéré comme utile à la personne, prise à la fois comme individu et comme acteur de la vie sociale. Considérée comme utile à la personne, prise à la fois comme individu et comme acteur de la vie sociale. Prise à la fois comme individu et comme acteur de la vie sociale. Je le relis une fois, c'est pas la peine de l'apprendre par cœur, ça ne sert à rien. L'attribution par la règle de droit d'un pouvoir d'imposer, d'exiger ou d'interdire, considérée comme utile à la personne, prise à la fois comme individu et comme acteur de la vie sociale. En quelque sorte, le droit subjectif, c'est le pouvoir dont nous dote la règle de droit, et donc c'est le pouvoir dont nous dote le droit objectif. Et c'est pour ça que dans l'introduction générale, je vous disais que les deux fonctionnaient de la même manière. Le droit objectif n'a de raison d'être que parce qu'il est là pour encadrer les droits subjectifs, et les droits subjectifs n'existent que parce qu'ils sont reconnus par le système juridique, donc par le droit objectif. Donc les deux fonctionnent de la même manière. Nous, pour des raisons de présentation générale, on envisage les deux successivement, séparément. encore qu'on a parlé un peu des droits subjectifs dans la première partie, et on va reparler beaucoup du droit objectif dans la deuxième, mais en réalité, c'est parce que les deux sont liés. Donc on voit bien que, encore une fois, les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. N'existent les droits subjectifs que parce que le droit objectif les reconnaît, et le droit objectif n'a de raison d'être que parce qu'il est là pour ordonnancer les droits subjectifs. Voilà. On va avoir quatre temps dans l'étude, qui sont autant de chapitres. On a quatre chapitres dans cette seconde partie. D'abord, les grandes classifications qu'on va traiter aujourd'hui. C'est un passage obligé parce que ça va vous permettre de comprendre ce qu'est une personne au sens du droit, et donc un titulaire de droits subjectifs. À qui est-ce qu'on reconnaît des droits subjectifs ? À la personne. Donc évidemment, il va falloir définir cette personne en droit. Et une fois qu'on aura fait ça, il faudra voir la physionomie des droits subjectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les droits subjectifs ? Comment est-ce qu'ils s'organisent ? On va retrouver des subdivisions sur la physionomie des droits. Ensuite, les sources, alors cette fois-ci pas les sources du droit objectif, les sources des droits subjectifs, donc comment est-ce que les droits sont amenés à naître ? Les droits dont vous êtes titulaire aujourd'hui viennent d'où ? Ils sont apparus quand ? Est-ce qu'ils ont été d'apparition automatique ou est-ce que vous les avez acquis ? C'est ces questions-là qu'on se posera dans les sources. Et enfin, la question de l'application. En fait, vous voyez que les deux parties se ressemblent un peu. On traite les mêmes questions, simplement pour avoir un panorama un peu générique et des droits subjectifs et du droit objectif. Donc on commence tout de suite et ça va nous prendre une large part de... au moins du cours du jour. On essaiera d'aborder un peu largement aussi la physionomie des droits ensuite, mais on va surtout évoquer aujourd'hui les grandes classifications. Donc ça fait l'objet d'un chapitre 1. Je ne vous ai pas demandé, vous avez réussi à tous réobtenir la semaine dernière par votre groupe WhatsApp les slides du cours de la semaine dernière, c'est bon ? D'accord. Donc si ça va aux quatre étudiantes qui m'avaient gentiment donné leur mail et qui sont hyper réactives et que je remercie de se dévouer pour la cause globale, on refait pareil aujourd'hui. Voilà. On n'a pas d'autre solution à l'heure actuelle. Donc j'essaye de trouver une solution technique qui ne soit pas non plus en open access total sur les fichiers audio. Vous inquiétez pas, je ne les ai pas balancés, je les ai toujours, mais pour l'instant, à minima, que vous ayez les slides. Donc, avant de rentrer dans le détail même des droits subjectifs à proprement parler, il faut se poser une première question, parce que si on ne répond pas à cette question, alors ça ne sert à rien de s'interroger sur les trois chapitres suivants. C'est-à-dire, encore une fois, ensuite, en chapitre 2, 3, 4, la physionomie des droits, les sources et les modes de réalisation. Pourquoi est-ce que ça ne sert à rien si on ne se pose pas cette première question qui est dans le chapitre 1 donc ? Parce que avant de savoir comment les droits fonctionnent, d'où est-ce qu'ils viennent, quelles sont leurs caractéristiques, leur physionomie, etc., il y a une question simple à se poser avant les autres qui est « à qui je reconnais des droits ?» Voilà. On parle de titularité de droits quand on parle dans un vocabulaire juridique. Donc la question qu'on va se poser, nous, c'est d'identifier qui est susceptible d'être titulaire de droits et qui ne l'est pas. Et donc évidemment, c'est la première question à se poser. On identifie d'abord le titulaire, et une fois qu'on sait à qui sont reconnus les droits, alors c'est légitime de s'interroger sur la physionomie, les modes de réalisation, les sources. Mais si vous ne faites pas ça d'abord, on résonne dans le vide en réalité. Donc cette première question des grandes classifications, c'est évidemment une question centrale et première, et c'est une question qui nous amène à raisonner sur une des grandes summa divisio. Alors cette fois-ci, on avait parlé de la summa divisio dans le droit objectif entre droit public et droit privé. La summa divisio sur les droits subjectifs, cette fois-ci, c'est sans aucun doute celle-là. C'est la division qui permet de séparer les personnes des choses. La personne peut être le titulaire de droit, ce n'est pas le cas de la chose. Alors, dit comme ça, ça peut vous paraître évident. Vous êtes titulaire de droit. On verra par la suite quel type de droit vous sont reconnus, mais vous êtes des titulaires de droit. Nous sommes des titulaires de droit. Vos ordinateurs, vos téléphones portables, vos paires de baskets, etc. ne sont pas des titulaires de droit. Voilà. Donc, la personne est titulaire de droit, la chose ne l'est pas. Il y a un truc un peu évident derrière ça. En réalité, on va vite constater que là encore, les distinctions parfois... Alors ici, sont pas vraiment délicates à opérer, mais parfois sont débattues. Et quand je vous dis de toujours recontextualiser une réflexion, vous allez voir que là, aujourd'hui, on se pose des questions sur, à minima, la distinction. Plus exactement que la distinction entre les personnes et les choses, sur la création peut-être d'une catégorie intermédiaire. Alors là-dessus, et je vais en reparler dans quelques instants, mais il faut tout de suite, à mon sens, poser le fait qu'il faut être extrêmement vigilant avec le caractère hermétique de la distinction. Vous vous souvenez, pour le coup, quand on a parlé de la summa division en droit objectif, donc la division droit public, droit privé, on a expliqué que précisément la frontière n'était pas hermétique, qu'il y avait une zone d'entre-deux, que la frontière n'était pas absolue et qu'on avait identifié ce qu'on avait appelé les droits mixtes, qui étaient en fait plutôt rangés du côté du privé, mais qui empruntaient au public. Là, pour le coup, ici, la frontière est hermétique, et même si c'est discuté parfois pour les éléments que je vais aborder dans quelques instants, il faut faire bien attention à la dimension historique de la raison d'être du caractère hermétique de la division. Je m'explique. En droit romain, et ça s'est poursuivi bien plus tard, mais les origines, elles remontent au droit romain, vous aviez une catégorie alternative qui était la catégorie où on reconnaissait que on était face à une personne, mais que cette personne pouvait relever de la catégorie des choses. C'est-à-dire qu'on était face à une personne appropriable, susceptible d'appropriation. Et ça, évidemment, c'est l'encadrement, dès le droit romain, de l'esclavage. C'est-à-dire des personnes qui peuvent être, non pas des sujets de droit, mais des objets. Voilà. Des personnes appropriables. La notion n'a plus aucun sens aujourd'hui, en dehors d'un sens historique, mais en droit positif, évidemment, il n'y a plus de personnes appropriables. Précisément parce que le droit contemporain, post-héritage de l'esclavage, etc., a décidé de poser une frontière très nette. Pour le coup, là, la frontière n'est pas floue du tout. Soit ces personnes, soit ces choses. Ça ne peut pas être les deux et il n'y a pas de catégorie intermédiaire. Voilà. Soit c'est une personne, et on va voir comment on définit la personne en droit, soit c'est une chose, mais on ne crée pas de zone de gris. Et l'argument historique, qui est que, historiquement, il y avait une reconnaissance d'une catégorie alternative, ou en tout cas entre les deux, qui était la catégorie qui permettait de ranger juridiquement les esclaves, me paraît décisif pour dire, attention, cette frontière-là et le caractère hermétique de cette frontière-là, il faut jouer avec de manière très, très, très prudente. Alors, je précise tout de suite que les débats qui ont lieu actuellement pour savoir si on va reconnaître une catégorie alternative, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, les auteurs qui envisagent ça n'envisagent pas du tout ça sous le prisme de l'esclavage, évidemment. Il s'agit pour personne d'envisager une restauration de l'esclavage. Mais, même si c'est pour d'autres catégories dont je vous parle dans quelques instants, il faut avoir bien conscience du fait que quand on envisage une troisième catégorie, entre les deux, on joue avec un caractère hermétique qui a une véritable raison d'être au sens historique. Donc, il faut y aller doucement. On en reparle dans quelques instants, mais c'est pour vous expliquer que finalement, même sur une division qui, à première vue, paraît relativement évidente, encore une fois, hein, le distinguo entre la personne et la chose n'est pas, pour le coup, pas la question la plus compliquée du cours, et ben vous allez voir que malgré tout, se posent des questions un peu particulières. Donc, rien de révolutionnaire là non plus sur le plan. Hein. On va d'abord envisager ce que c'est la personne, et ensuite, on abordera la question de la chose. Donc, d'abord, une section première sur la personne. Section 1, la personne. Donc, encore une fois, hein, je réassène des évidences, on va rentrer dans le détail ensuite. La personne, c'est l'entité, la figure investie des droits subjectifs par le système juridique. Quand je dis investie de droits subjectifs, j'entends par là à qui on reconnaît la titularité de droits subjectifs. La personne, c'est celle qui est titulaire de droit. Et donc évidemment, c'est à elle qu'on va s'intéresser au premier plan. En introduction de la partie, j'ai parlé au début des individus avant de me corriger et en disant en fait la notion d'individu, elle n'est pas suffisamment précise et on va parler des personnes plus qu'on ne va parler des individus. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette précision-là d'entrée ? Parce que le premier réflexe qu'on a quand on commence le droit, et c'est bien normal, hein, évidemment, mais c'est de se dire que la personne, c'est vous et moi. C'est les individus, pour le coup, pour reprendre la notion que j'envisageais tout à l'heure, c'est les personnes avec qui on peut interagir. Ça, c'est ce qu'on appelle des personnes physiques. Vous et moi, nous sommes en droit des personnes physiques. Il n'y a pas que ça. La catégorie de personnes, elle se subdivise. Vous avez d'une part les personnes physiques, donc les individus comme vous et moi, et vous avez d'autre part une autre catégorie de personnes qui est la catégorie des personnes morales, c'est-à-dire, par exemple, on va y revenir tout à l'heure, mais les sociétés, les associations, les fondations, etc. En fait, la notion de personne, elle transcende, elle va au-delà des seuls individus comme vous et moi, et elle concerne aussi la notion de personne morale, la catégorie de personne morale. Donc, en fait, quand on parle des personnes, on vise les deux, et il faut envisager successivement, du coup, la personne physique et la personne morale. Avant de rentrer dans ce détail-là, quel est ce qui rassemble les personnes physiques et les personnes morales? Quel est le critère commun aux deux? Le grand critère commun aux deux, c'est ce qu'on appelle la personnalité juridique. En fait, une personne, c'est une entité dotée d'une personnalité juridique. Que cette personne soit physique ou morale, elle a, dès lors qu'elle est personne, une personnalité juridique. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression de personnalité juridique que vous allez rencontrer très souvent par la suite, hein ? La personnalité juridique, c'est en quelque sorte l'aptitude à participer à la vie juridique. Et donc, l'aptitude à participer à la vie juridique, c'est aussi l'aptitude à être investi de droits, de devoirs évidemment dans le même temps, hein, et à vivre, à faire vivre des situations de droit, des situations juridiques. C'est un absolu pour toutes les personnes, la personnalité juridique. Rien, plus exactement, rien d'autre que la mort ne peut vous faire perdre votre personnalité juridique. Et on peut dire la même chose pour les personnes morales, si ce n'est qu'elles ne meurent pas. Elles peuvent disparaître, il peut y avoir des dissolutions de personnes morales, mais tant que la personne existe, la personnalité juridique existe avec elle. N'existe pas, on parlait à l'instant du droit romain par rapport à l'esclavage, pardon, n'existe pas en droit contemporain le type de peine que les Romains connaissaient pour le coup et qui était ce qu'on appelait la mort civile, c'est-à-dire une peine qui était prononcée donc par définition à titre de sanction, hein, et qui impliquait la suppression de la personnalité juridique. À titre de peine, à titre de sanction au regard du comportement que vous aviez adopté, donc c'était pour les cas les plus graves, hein, l'État vous privait de votre capacité à être titulaire de droit. On faisait juridiquement comme si vous n'existiez plus. Ça, c'est ce qu'on appelait donc en droit romain la peine de mort civile. Elle n'existe plus en droit contemporain. Autant que la personne existe, la personnalité juridique existe avec elle. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un absolu. Donc, autant que vous existez, la personnalité juridique existe avec vous. Ça veut dire qu'elle apparaît dès votre naissance. On va parler de la naissance dans un instant. Elle apparaît dès votre naissance. Alors, très souvent, à la naissance, quand vous avez une semaine, 15 jours, vous êtes simplement dans une capacité théorique à détenir des droits, à exercer des droits, etc. Mais, alors, l'exercice, oui. Pour l'existence même du droit. Le droit, il existe, pour un certain nombre de droits, ils existent dès la naissance. La semaine prochaine, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on parlera des droits extra-patrimoniaux. Vous pouvez faire un renvoi. Il y a les droits extra-patrimoniaux, ils existent dès la naissance. Un exemple tout bête, le droit à la dignité, par exemple, et notamment à l'intégrité corporelle, ce genre de choses, ils existent dès la naissance. On n'attend pas que l'enfant ait 3, 4, 5, 10 ans pour reconnaître qu'il est titulaire d'un droit à la dignité, d'un droit à l'intégrité de son corps. Il y a des droits dont on est titulaire dès la naissance. Simplement, évidemment, la question qui se pose, c'est la capacité d'exercice. Et donc là, c'est le rôle des titulaires de l'autorité parentale de les exercer pour l'enfant. Mais le droit, le titulaire du droit, c'est le bébé qui a 5 minutes. Voilà. C'est le bébé qui a une seconde. Parce que sa personnalité juridique est née avec lui et que, par définition, un certain nombre de droits apparaissent dès la naissance. Voilà.
Je laisse ça de côté, encore une fois, on parlera la semaine prochaine des droits extra-patrimoniaux. On attaque donc tout de suite, une fois ces précisions-là, ayant été apportées, sur la question, ça fait l'objet d'un paragraphe premier, sur la question de la personne physique. Encore une fois, je me répète, mais c'est volontaire, la personnalité juridique qui fait de vous des sujets de droit dont on est tous titulaires, hein, on a tous une personnalité juridique, elle naît et elle meurt en même temps que vous. Elle apparaît au moment de votre naissance, elle disparaîtra au moment de votre décès. Donc ça veut dire qu'il faut envisager les deux instants, les deux moments de la chronologie de vie, la naissance, la mort, pour voir comment est-ce que cette naissance et cette mort, on les définit aussi juridiquement. Alors, sur la naissance d'abord. La condition, et là-dessus, attention, c'est essentiel, on va prendre un exemple dans 10 secondes. La condition de l'apparition de la personnalité juridique, ce qui veut dire, encore une fois, la condition pour que le droit vous reconnaisse comme étant des personnes, c'est que l'enfant soit né vivant et viable. C'est le vocabulaire employé par la loi. Le nouveau-né, même s'il ne vit que 15 minutes, 30 minutes, le nouveau-né est doté de la personnalité juridique, à condition qu'il soit né vivant et viable. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit né dans un état de développement suffisant, doté d'organes qui permettent d'assurer sa survie, même si cette survie, elle ne dure le cas échéant que 30 minutes. Ça peut paraître très théorique et certains d'entre vous peuvent se dire « Mais pourquoi on se pose la question de l'enfant a vécu 30 minutes, est-ce qu'il y a eu une personnalité juridique ?» C'est décisif, hein, notamment en termes de droit des successions. Ça veut dire que même si la personne n'a existé que pendant 30 minutes, elle a existé, elle a été le cas échéant, l'héritier de quelqu'un. Donc ça peut changer des lignes successorales, par exemple, l'existence d'un enfant, même si malheureusement cette existence, elle a été très raccourcie dans le temps. Donc c'est pas du tout des questions théoriques, c'est des questions en droit des personnes, puis en droit des successions, etc., qui sont absolument décisives. Donc, ça veut dire qu'il faut une naissance pour qu'il y ait une personne. Ce qui veut dire qu'en amont de la naissance, le stade embryonnaire, donc de l'embryon, puis quand la grossesse est un peu développée, le stade du fœtus, vous n'êtes pas face à des personnes. Pourquoi j'insiste ? Vous avez tous entendu parler de l'affaire Palmade ? Oui. L'une des qui en a jamais entendu parler ? Oh, bon. Ben, il faut suivre un peu les infos. Je vous explique très brièvement. S'il vous plaît. J'aime bien prendre des exemples dans l'actualité, juste parce que pour vous aussi, c'est une manière un peu différente d'apprendre le cours, mais donc j'explique si certains ne connaissent pas. Je résume très brièvement, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc c'est Pierre Palmade qui était un humoriste, je ne sais même pas si certains le connaissent, enfin, certains ne connaissent pas. Si, ça va, bon. Qui a eu un accident de voiture en ayant de toute évidence consommé des substances illicites en amont. Et parmi les victimes qui étaient dans la voiture d'en face de l'accident de voiture, il y avait une femme qui était enceinte de 6 ou 7 mois, quelque chose comme ça, et dont la grossesse a été interrompue en raison de l'accident. Elle a perdu son bébé. Et alors là, pour ceux qui ont suivi l'affaire un peu dans les médias, ça a été un déferlement de grand n'importe quoi juridiquement. Alors, je précise tout de suite mon propos. Je n'amène pas au fait de dire que c'est pas grave du tout en droit de faire perdre un bébé à une femme. C'est pas ça l'objet de mon développement. Mais on a entendu partout que... Et alors là-dessus, les réseaux sociaux ont été une espèce de caisse de résonance. Oui, voilà, c'est n'importe quoi, le droit. Comment est-ce qu'on peut ne pas le condamner pour le meurtre de l'enfant ? À cause de lui, l'enfant est mort. Non. Je n'enlève rien au drame que la famille a vécu, du tout. Mais je dis simplement que le fait de perdre un fœtus, je donne l'appellation juridique, hein, ne revient pas à perdre un enfant. que juridiquement, ça change tout. Si on prend un exemple très tranché, juridiquement, ça n'a rien à voir. De perdre un enfant pendant la grossesse, donc de perdre un fœtus en réalité, si je parle juridiquement, quand vous êtes sur le chemin de la maternité parce que vous êtes en train d'accoucher, et la vie en devenir, puisque ce n'est pas vraiment une vie au sens du droit à ce moment-là, s'arrête parce que vous avez un accident sur le trajet, ça n'a rien à voir de si vous sortez de la maternité avec votre enfant de 3 jours, il y a un accident de voiture et le bébé décède. Juridiquement, ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que ce qui fait basculer dans la catégorie des personnes, c'est la naissance. Tant qu'il n'y a pas de naissance, vous n'êtes pas une personne. Donc, en réalité, la qualification pénale qui a été retenue dans l'affaire Palmade, en tant que citoyen, on en pense ce qu'on veut, là où ça rendait dingue, c'est les débats qui étaient soi-disant par des experts qui se prononçaient sur le terrain du droit. Et là, au secours, la frontière, elle est très simple. Tant que l'enfant n'est pas né, vivant et viable, ça n'est pas une personne. Donc, il n'y a pas de meurtre. Enfin, c'est pas un meurtre du tout, c'est moi qui m'exprime très mal. Il n'y a pas d'homicide involontaire possible parce qu'il n'y a pas de victime personne de l'homicide involontaire. Voilà. Je parle là pas à l'égard de la mère, hein, évidemment, je parle à l'égard de l'enfant à naître. L'enfant, tant qu'il n'est pas né, n'est pas une personne. Alors ça peut amener à un truc qui a été entendu aussi de dire « Eh ben, il faut changer la loi !» Dont acte, pourquoi pas ? Attention à ces réactions, quand je vous dis on a maintenant de plus en plus des réactions qui sont « alors là, ça ne s'est pas produit, attendons, parce qu'on n'est jamais à l'abri de nouvelles propositions », il faut changer la loi et reconnaître que, en fait, quand vous faites perdre son enfant à une mère qui est enceinte, c'est la même chose que si vous aviez tué la personne du bébé. Ok, très bien. Mais donc, par définition, si on reconnaît ça, on reconnaît que l'enfant à naître est déjà une personne. Il n'y a plus d'interruption volontaire de grossesse si on fait ça. L'IVG n'est possible, dont vous savez que ça a été constitutionnellement reconnu là récemment, l'IVG n'est possible précisément que parce que l'enfant à naître n'est pas une personne. Si vous reconnaissez demain, pour ce type de faits divers qui sont atroces, c'est encore une fois pas ce que je veux dire du tout, mais il faut essayer d'avoir un peu l'ensemble des enjeux, quand on raisonne sur des terrains qui en plus sont aussi émotionnellement forts, si vous reconnaissez, après l'affaire Palmade, en disant le droit c'est... S'il vous plaît, le droit c'est n'importe quoi, et il faut reconnaître que c'est un homicide involontaire. Voilà, on fait comme si l'enfant était déjà une personne. Demain, il n'y a plus d'interruption volontaire de grossesse. On pénalisera l'IVG. C'est éminemment logique, hein, parce que vous n'aurez pas exercé votre liberté de choisir, mais vous aurez mis un terme à une vie qu'on reconnaît déjà avant même qu'elle soit apparue. C'est un crime pénalement. Voilà. Donc, je prends cet exemple-là pour vous dire deux choses. D'abord, au niveau de la naissance, que vous compreniez bien l'importance du moment du déclenchement. Évidemment. Alors après, il peut y avoir des circonstances aggravantes sur le terrain pénal quand l'atteinte qui est subie par une femme qui portait un enfant. Mais la victime, c'est la femme. L'enfant à naître, par définition, ne peut pas être une victime puisqu'il n'est pas une personne. Et donc, c'est pour ça aussi une autre... Ça sert à autre chose, cet exemple-là, qui est de dire attention. Attention à toujours raisonner, pas sur l'instinct, parce que le droit va vous offrir des situations pleines tout le temps, terribles à observer comme ça, voilà, qui sont moralement difficiles à aborder. Votre boulot, qui n'est pas évident, mais ça va consister à ça, alors ça dépend des matières de spécialisation que vous choisirez aussi, hein. Vous verrez plus de trucs difficiles en pénal qu'en droit de l'urbanisme. Clairement, ça dépend des orientations. Mais vous allez de toute façon, sur vos études, en rencontrer un paquet. L'enjeu, c'est de ne pas perdre une part d'humanité, parce que le juriste n'est pas un robot non plus. On raisonne, on l'avait dit, au niveau de la justice, etc. Mais de ne pas être dans la réaction passionnée. Voilà. Oui, on veut absolument punir Palmade. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas de sanctions, ce n'est pas mon propos. Mais, et donc, à partir du moment où c'est atroce que la femme ait perdu son bébé, tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais il faudrait changer la loi pour que ça puisse être reconnu comme... On se calme et on réfléchit 2 secondes aux incidences d'une règle comme ça. Voilà. Parce que c'est très rarement, quand vous allez intervenir sur un sujet, ça concerne très rarement juste le sujet. Ça va être un peu tentaculaire et ça va avoir des embranchements ailleurs que vous n'aurez pas identifiés. Donc le job du juriste, c'est aussi d'avoir sa part d'humanité et de prendre conscience de la difficulté d'un sujet, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait bien évoluer les lois, mais dans le même temps d'être en capacité de se poser, de raisonner, pas juste d'être dans l'affect en fait, mais d'être dans la part intellectuelle du raisonnement, même si parfois c'est pas facile évidemment, hein. Et quand on parle des affaires de Mazan avec les viols avec 60 accusés, etc., il y a des fois où la prise de recul, elle n'est pas évidente à faire. Mais vous serez obligé de faire ça. Le droit, c'est ça aussi. C'est la part d'humanité, de justice qui doit conduire la règle de droit. C'est l'objectif qu'on se fixe. Mais c'est aussi le fait de prendre un peu de recul par rapport aux passions et à la tension parfois dans la société, de se décaler un tout petit peu, de décaler le regard et de se dire, OK. J'ai vu la dimension affective. Qu'est-ce qu'on en tire sur le terrain du droit? Qu'est-ce que le droit nous dit là-dessus? Et le cas échéant, pourquoi pas se dire, là, il faut que ça évolue. Là, le droit n'est pas convaincant. Enfin, l'abolition de la peine de mort, c'est 81, hein? Vous étiez loin d'être né, mais ce n'est pas si vieux que ça. Le droit est en capacité d'évoluer quand il se dit, là, la solution est pas juste et pas correspond pas à nos valeurs. Vous le ferez évoluer peut-être le droit, vous, demain. Mais il faut réfléchir aux implications d'une règle de droit quand vous la prenez. Donc voilà pour cette règle-là. Attention, donc, oui, peut-être que certains l'ont compris. Je vous ai dit là à l'instant, il y a une frontière hermétique personne-chose, et donc tout ce qui n'est pas personne est chose, et inversement, tout ce qui n'est pas chose n'est personne. C'est forcément l'une des 2 catégories. Donc puisque je viens de dire l'embryon, qui est le premier stade, et le fœtus, ne sont pas des personnes, c'est des choses. Cette qualification-là, elle peut choquer. Elle peut choquer le profane en droit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un amphi. Ce n'est pas un reproche, encore une fois. Ce qui est problématique, c'est quand la parole est prise après à titre d'expert. Encore une fois, ce distinguo, il a un sens. La frontière hermétique entre personne et chose, ça fait sens. Ceci étant dit, l'embryon et le fœtus, ça fait partie des catégories de choses qu'on traite de manière très particulière. Le droit reconnaît par exemple la protection de, attention aux qualifications, la protection de l'être humain dès le début de sa vie. L'être humain, ce n'est pas la personne. Le droit reconnaît que l'embryon, le fœtus peuvent bénéficier d'une protection particulière parce que c'est une catégorie de choses particulières. Donc, il y a une protection particulière qui leur sont reconnues. C'est ce qui explique aussi, je ne me lance pas dans un cours de bioéthique avec vous, hein, mais c'est ce qui explique aussi les limitations qu'on a sur les recherches, sur les embryons, etc. Vous savez qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, que la recherche médicale scientifique, quand vous travaillez sur des embryons, elle est limitée. Il y a un très grand nombre de règles à respecter. Pourquoi? Bah parce que ce n'est pas pareil de travailler sur un embryon que sur, j'en sais rien moi, des arbres. Voilà. Et encore là, je prends un deuxième exemple du vivant, on pourrait discuter aussi. Pas le même type de vivant, évidemment, mais ce que je veux vous dire, travaillez sur les puces à l'intérieur de vos ordis. Voilà. Clairement, ce n'est pas la même chose. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, c'est une chose, l'embryon, le fœtus. Pourquoi? Parce que ça n'est pas une personne, pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Pour autant, c'est une chose qu'on va traiter de manière particulière. Voilà. On retrouvera tout à l'heure des choses qu'on traite de manière particulière, mais dans l'absolu, ce n'est pas absurde, ça existe. Mais oui, c'est une chose. Voilà. Et donc, parfois, la qualification, elle choque. Il faut remettre le curseur au centre et il faut réexpliquer pourquoi c'est une chose et pourquoi c'est important que ça le demeure. Quelles seraient les implications qu'on reconnaisse que l'embryon, le fœtus sont des personnes? Un très, très grand nombre d'implications. Donc ça, c'est sur le volet naissance. Et puis de l'autre côté de la chronologie de la vie, vous avez évidemment le moment de la mort. Alors, la question, elle est toute bête, hein. Comment est-ce que juridiquement vous définissez la mort? À quel moment on considère qu'une personne est morte. Alors, ce n'est pas le moment le plus réjouissant du cours, hein, clairement. Mais c'est un point essentiel pour vous. D'autant plus, s'il vous plaît, d'autant plus avec les progrès de la médecine qui font que parfois, on se retrouve face à des personnes qui nous semblent dépourvues de conscience, qui sont alimentées artificiellement. Évidemment, il faut qu'il y ait une définition juridique précise de la mort. Alors, cette définition-là, vous la trouvez dans le Code de la santé publique. Et quand vous regardez le Code de la santé publique, vous vous rendez compte que l'arrêt cardiaque n'est pas suffisant. Le fait que le cœur se soit arrêté n'est pas suffisant juridiquement pour définir la mort. Le texte de droit vous dit, s'il y a un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, donc en présence d'un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, la mort ne peut être établie que si les trois critères que je vais vous donner sont remplis en plus. Donc c'est-à-dire qu'en plus de l'arrêt cardio-respiratoire persistant, il faut la réunion de trois conditions cumulatives, donc qui se cumulent. Il faut, pardon, ne les apprenez pas par cœur, vous les connaîtrez, vous ne serez pas interrogé là-dessus, ça ne sert à rien de les apprendre par cœur, c'est pour que vous ayez la définition. D'abord, l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. Absence totale de conscience et d'activité spontanée, et d'activité motrice spontanée, pardon. Ensuite, donc absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. Ensuite, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Et enfin, absence totale de ventilation spontanée, pardon. Absence totale de ventilation spontanée. Donc, il nous faut, en plus de l'arrêt cardio-respiratoire persistant, il nous faut l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, l'abolition des réflexes du tronc cérébral et l'absence totale de ventilation spontanée. Si vous avez donc ces quatre éléments-là, la mort peut être prononcée. Donc, vous voyez que, alors, c'est à cheval entre le droit et la médecine, hein, mais le droit se sert de critères de médecine pour établir précisément le moment du décès. Ok, ça fonctionne très bien quand on peut établir le décès. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas certain de la date du décès? Et là, je parle plus précisément. Il y a deux hypothèses, en fait, quand on se pose la question de si on n'est pas certain de la date du décès. La première hypothèse, c'est l'hypothèse où, en fait, vous savez, on entend parler parfois dans les faits divers, on a retrouvé le corps d'une vieille dame qui devait être là depuis 3 semaines, 1 mois. Les voisins, généralement, ont été alertés par l'odeur, ils appellent les pompiers et on retrouve un corps. Là, c'est le boulot du légiste de dater la mort. Ça, c'est un cas particulier. Moi, je parle d'une autre hypothèse, là. On n'a pas de corps. Voilà. C'est pas un problème de datation de la mort face à un cadavre, si on dit les choses clairement. C'est un problème de « bah oui, mais moi, j'ai pas de corps ». Et là, on a deux mécanismes différents en droit qui jouent. L'absence et la disparition. Vous allez approfondir ces questions en droit des personnes, mais j'en dis quelques mots malgré tout. Ça peut vous surprendre qu'on ait deux mécanismes juridiques différents pour jouer quand on n'a pas le corps de la personne. En réalité, vous allez comprendre que c'est très logique quand on va exposer ces deux mécanismes-là. Donc le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de l'absence. Je définis, je vous explique. Dans ce cas-là, la personne a disparu et les circonstances de sa disparition font qu'il est impossible de savoir si elle est vivante ou si elle est morte. Elle a disparu. Du jour au lendemain, elle n'est plus là. Voilà. Donc, si je tranche là encore le propos entre nous en amphi, elle peut être morte dans un fossé ou elle peut être partie faire sa vie refaire sa vie à Tahiti. Et on ne sait rien. Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'elle n'est plus là, physiquement. Voilà. Mais vous n'avez aucun élément qui vous permettent d'aller très clairement dans le sens plutôt d'un décès. Donc là, évidemment, le droit a prévu des règles particulières et il faut trouver un équilibre. Un équilibre entre quoi et quoi ? Entre la protection des intérêts de la personne absente, hein, parce qu'à partir du moment où on n'a pas d'éléments qui militent très clairement dans le sens d'un décès, il faut préserver les intérêts d'une personne qui certes a disparu, mais donc qui par définition peut réapparaître. Donc protéger ses intérêts d'abord, mais protéger aussi ses relations avec les tiers, sa famille, des tiers contractuels, etc. Ces gens-là aussi, ils ont des intérêts à préserver. Ça va fonctionner en deux temps, le mécanisme de l'absence. D'abord, il va y avoir une présomption d'absence. Vous allez demander au juge, alors les personnes intéressées vont demander au juge, hein, les proches, ses enfants, le conjoint, etc., éventuellement les créanciers de la personne, vont demander au juge d'acter de l'absence de la personne. Donc le juge va constater l'absence, va poser une présomption d'absence et il va mettre en place un système de gestion des biens de la personne absente. Donc pendant cette période-là, on fait toujours comme si la personne était vivante, mais on désigne un tiers pour gérer ses biens à sa place. Mais dans ce moment-là, on fait comme si la personne était toujours en vie. 10 ans après la présomption, quand la présomption a couru pendant 10 ans, si la personne n'est toujours pas réapparue, alors on peut obtenir à ce moment-là un jugement déclaratif d'absence. Et dans ce cas-là, on change de logique, on considère que la personne est décédée. Donc sa personnalité juridique s'éteint, sa succession est ouverte, etc. Problème évidemment si la personne réapparaît au bout de 15 ans. Alors, dans ce cas-là, on l'accompagne. Sur sa réapparition, évidemment, mais il y a un certain nombre des actes qui ont été accomplis du fait du jugement déclaratif d'absence sur lesquels on ne revient pas. Par exemple, vous étiez marié et votre conjoint ou votre conjointe est sorti acheter un paquet de cigarettes et vous ne l'avez jamais revu. Donc vous obtenez une présomption d'absence, s'écoule 10 ans, vous obtenez un jugement déclaratif d'absence, le droit fait comme si vous étiez veuf ou veuve. La personne à laquelle vous étiez marié a disparu, vous êtes donc veuf ou veuve. Vous vous remariez. Et puis 5 ans après, il réapparaît ou elle réapparaît. Si on fait table rase du jugement déclaratif d'absence, d'abord ça veut dire que vous êtes bigame, parce que vous êtes dans 2 liens de mariage. Et ça veut dire ensuite que du coup, le mariage précédent pourrait chasser le second mariage. C'est pas tenable, ça. Vous avez refait votre vie, vous vous êtes marié à nouveau. Le second mariage, évidemment, subsiste. C'est la disparition du premier mariage qui va l'emporter. Même si la personne réapparaît, on continue à considérer que le premier mariage a disparu et donc, le cas échéant, que vous étiez pleinement libre pour vous remarier ensuite. Ça, c'est le mécanisme de l'absence. En parallèle du mécanisme de l'absence, donc, vous avez un second mécanisme qui est le mécanisme de la disparition. Je vous disais tout à l'heure, ça peut vous sembler bizarre qu'on ait deux mécanismes, mais vous allez voir qu'en fait, c'est très logique. Pour une raison simple, c'est que, contrairement au mécanisme de l'absence, celui-là, il est mis en œuvre quand malheureusement, on a beaucoup plus de raisons de croire que la personne est décédée. On n'a pas de certitude parce qu'on n'a pas de corps. Donc sans corps, vous n'avez jamais de certitude à 100%. Mais là où dans le mécanisme de l'absence, on a dit en fait on ne sait pas, ça peut être toutes les situations possibles, on n'a aucune idée, dans le mécanisme de la disparition, là vous avez beaucoup plus de raisons de croire que la personne est décédée. La personne a disparu, elle est introuvable, donc là ça ressemble au mécanisme de l'absence jusque-là, sauf que là, elle a, je reprends les termes de la loi, elle a disparu dans, c'est ce que dit le législateur, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Exemple. Alors, c'est un exemple américain, mais ça fonctionnerait aussi bien chez nous. Hein. Il y a un certain nombre de corps, hein, l'immense majorité des corps dans le World Trade Center qu'on n'a pas retrouvé par définition. Mais quand vous saviez que la personne était à proximité des tours ou dans les tours quand elles se sont effondrées et que vous n'avez plus de signe de vie,
vous voyez bien que là, ça n'aurait pas grand sens, y compris sur un plan d'humanité, de dire à la famille « Eh, on attend 10 ans ». On fait un jugement déclaratif d'absence et on voit dans 10 ans si elle est revenue. Voilà. Mais c'est pour ça, en fait, qu'il y a deux mécanismes. Parce que dans cette hypothèse-là, on s'en est beaucoup servi aussi quand il y a eu des tsunamis. Vous étiez sur la plage et vous n'avez plus donné signe de vie après le tsunami. On sait juste que le dernier moment où on vous a identifié, vous étiez sur la plage où la vague est arrivée. Bon. Là non plus, il n'y a pas tellement de raisons de dire « on attend 10 ans ». Le mécanisme de la disparition, il sert à ça. Quand on connaît le contexte des derniers moments identifiés de la personne et que ce contexte nous amène à croire que malheureusement l'issue, ça a été le décès, le législateur considère qu'il n'y a pas de raison d'attendre 10 ans. Et dans ce cas-là, vous allez saisir le juge et vous allez obtenir une déclaration judiciaire de décès du disparu. La personnalité juridique s'éteint directement et donc il y a une transmission des biens, etc. Vous voyez le sens du dédoublement du mécanisme, en fait. Il existe deux types de mécanismes à mettre en place quand on n'a plus la personne et qu'on n'a pas de corps. S'il n'y a aucune raison de penser particulièrement que c'est plus un décès qu'autre chose, alors vous allez sur l'absence. Si le contexte amène à croire que l'issue, ça a été le décès, alors vous avez le mécanisme de la disparition. Voilà pour les personnes morales. On fait un break 10 minutes et on reprend ensuite.